Bien, bonjour à tous. Donc, je suis heureux d'accueillir au collège aujourd'hui Madame Karine Clément, qui est professeure à la faculté des arts libéraux et des sciences de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Madame Karine Clément a fait toutes ses études en France. Elle est diplômée de Sciences Po et elle a fait sa thèse à l'École des hautes études en sciences sociales. Mais sa thèse portant sur un sujet du monde ouvrier en Russie, elle a évidemment, dès cette période de thèse, passé beaucoup de temps en Russie et elle a fait le choix, après tout un ensemble de postes doctorat et d'enseignement dans des facultés diverses du monde entier, elle a fait le choix, en tout cas jusqu'à présent, de s'installer en Russie pour continuer ses recherches avec des étudiants russes. Alors, le sujet qu'elle va traiter aujourd'hui est un sujet qui a à la fois un intérêt de science politique et un intérêt d'actualité, puisque c'est celui de la question du populisme et de la démocratie aujourd'hui en Russie. C'est une question qui est débattue partout en Europe, mais c'est une question qui est aussi pressante dans presque tous les pays du monde et qui se présente avec ses spécificités propres dans l'espace russe. Donc je suis très content de l'accueillir là dans le cadre de ma chaire, car les informations et les analyses qu'elle peut nous apporter à partir de son insertion dans le monde russe me semble particulièrement précieuse. Donc, merci beaucoup, Madame Clément, d'avoir accepté notre invitée au collège. Et je vous donne donc, sans plus tarder, la parole.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Et donc, je vais parler de populisme et démocratie en Russie contemporaine. Le titre, bien entendu, peut faire sourire, puisque qu'y a-t-il de démocratique en Russie ? Qui plus est, en Russie poutinienne, puisque les médias, surtout occidentaux, autant que je puisse le savoir, dépeignent un régime dictatorial répressif. Je soutiendrai, quant à moi, qu'une certaine démocratie existe bien, peut-être moins au niveau institutionnel, encore qu'il y ait, par exemple, des élections, peut-être moins dans la sphère politique comprise au sens strict, mais mes recherches de terrain en sociologie ou ethnographie du politique montrent qu'une certaine démocratie existe, ou plutôt que des voies d'une démocratisation sont en train de s'ouvrir, d'être explorées, et que ces voies sont à chercher dans le social, dans ce qui se passe en bas, parmi les gens du commun, les gens ordinaires, parmi ces Russes ordinaires que l'on dépeint serviles et autoritaires, et qui ne le sont peut-être pas autant qu'on veut bien le dire. Ce que je vois dans mes dernières recherches, ce sont des dynamiques de reconstitution du lien social, de reconstitution d'un sens social, voire d'une conscience sociale. Et cette reconstitution du social, en germe, est l'un des aspects forts de la démocratie qui est un fait social autant que politique. L'autre aspect du titre qui peut poser problème, c'est de poser les deux concepts, le populisme et la démocratie, en relation neutre l'un avec l'autre. Pourtant, ces deux concepts ont plus en commun qu'on tend à le penser avec les images médiatiques montantes des menaces populistes à la démocratie un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Bien sûr, le peuple. Et étant avant tout sociologue, c'est autour de ce peuple que je vais organiser mon intervention, autour de ce que je peux percevoir des aléas, des évolutions de l'image du peuple depuis la chute du système soviétique ou communiste. Je vais donc vous convier à un petit détour historique avant de m'engager dans l'analyse de ce qui se passe actuellement. Donc, à la chute du mur, on peut parler, donc, dans les années 87, au tournant des années 80-90, on peut parler d'un peuple mobilisé contre le parti-État. Il s'agit de mobilisations très importantes, de couches très différentes de la population, les intellectuels, les dissidents, les cercles culturels informels, les ouvriers, les mineurs et une partie de la nomenclatura. Tous mobilisés contre le parti unique, contrôlant l'État, la vie économique et sociale. Pourquoi se mobilisent-ils ? Pour la démocratie ? Certes, mais ils avaient, à cette époque, les gens avaient une vision très, très abstraite et approximative de ce qu'était la démocratie, qui était synonyme d'opulence occidentale, de liberté de réalisation individuelle, d'une meilleure vie, en gros. Néanmoins, s'affirme l'image d'un peuple uni dans la mobilisation pour que ça change, dans la mobilisation pour la démocratie, c'est-à-dire pour vivre mieux. Avec l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin, c'est l'image de ce peuple mobilisé pour la démocratie qui arrive au pouvoir. Donc l'image d'un peuple courageux qui a mis fin au monopole du Parti communiste, un peuple démocratique. Mais dans la réalité sociologique, c'est le peuple des intellectuels libéraux et de l'opposition libérale interne à la nomenclatura qui assoit son pouvoir. Et le peuple en tant que peuple ordinaire, le bas peuple, s'est fait à cette époque confisquer la démocratie. C'est ce que je vais montrer maintenant en parlant des années 90, ce que j'intitule « La démocratie contre le peuple ». On assiste alors au triomphe du libéralisme économique dur à la Hayek. C'est le moment où on lance la thérapie de choc en 1992, donc dérégulation économique, privatisation massive, libération des prix. On parle à l'époque de démocratie de marché, on utilise cette expression, et le mot d'ordre est « enrichissez-vous, prenez le plus de libertés possibles, les libertés économiques et les libertés au niveau des régions ». Ce sont les discours officiels dans les cercles du pouvoir. Donc la démocratie se réduit en fait à la liberté d'entreprendre, de faire du profit, de privatiser les richesses communes, de se réaliser individuellement, de consommer. C'est la démocratie de l'entrepreneuriat et de la consommation. Mais pour arriver à ses fins, une telle démocratie doit arriver à neutraliser le peuple, le démobiliser. Et on entend dans les médias à l'époque un fort discours sur le thème de laisser la démocratie aux experts, à ceux qui savent, à ceux qui sont responsables. Retournez à vos affaires privées, vous avez assez protesté, abandonnez vos revendications, serrez-vous la ceinture, patientez, nous créons un nouveau système qui mettra du temps à porter ses fruits. Donc le peuple est dissocié de la démocratie qui devient l'affaire des démocrates autoproclamés qui sont définis avant tout par l'anticommunisme. Il y a aussi des institutions politiques minimales, les élections, un gouvernement dit démocratique, un pluripartisme, le pluralisme dans les médias, assez relatif par ailleurs puisque les médias sont contrôlés par les grands groupes industrialo-financiers à l'époque. Mais ces institutions sont là avant tout pour protéger la libre entreprise, le libre enrichissement et la libre consommation. Quant au peuple, c'est-à-dire la majorité de ceux qui vivent de leur salaire ou de leur retraite, le peuple devient inutile, voire dangereux, d'autant plus que la majorité des gens s'enfonce dans la misère avec une chute drastique des revenus, de l'épargne, des retraites, et la généralisation du non-paiement des salaires. Cependant, il n'y a pas de révolte, ou très peu, et le peuple sociologique reste relativement passif au regard des épreuves qu'il traverse. Cela s'explique par une grande atomisation, un désarroi, une déstabilisation, une énorme précarité, ce que j'appelle aussi la désubjectivation. Mais dans les médias, dans le discours de l'intelligentsia, démocratique, c'est le peuple dangereux, immature qui est montré. Les discours politiques et les reportages à la télévision caricaturent le peuple qui n'est pas prêt pour la démocratie, qui rechigne à se prendre en main, à renoncer au paternalisme d'État. Et les rares actions de protestation contre, par exemple, le non-paiement des salaires sont tournées en dérision. On montre des protestataires qui ne veulent pas travailler, qui sont nostalgiques du temps soviétique, des protestataires qui sont extrémistes, qui mettent en danger la démocratie. Et on se moque de ce peuple prêt à, je cite, « échanger sa liberté contre du saucisson ». Autre version également du peuple, qui est utilisée dans les médias et qu'on voit dans les cercles intellectuels, c'est le peuple des perdants, le peuple des incapables de s'adapter au marché, des ratés, incapables de prendre des risques. À l'inverse, l'élite politique et les intellectuels démocrates, c'est autoproclamé, se caractérisent par leur haute qualité spirituelle, leur motivation liée à des hauts motifs, la liberté, les droits de l'homme, surtout la défense de la propriété privée d'ailleurs. Dans les faits, on assiste donc au triomphe du capitalisme de marché, la démocratie étant la façade de ce socle économique. Gouverne la Russie d'alors les oligarques, c'est-à-dire les grands groupes industrialo-financiers qui ont monopolisé les richesses du pays et contrôlent la réalité de la vie politique et institutionnelle. En fait, on peut difficilement parler de démocratie ou à moindre degré. Il s'agit plutôt d'un capitalisme oligarchique avec un discours démocratique. Mais ce système est soutenu à l'époque par l'Occident qui ne sera pas soumis au doute, même quand Yeltsin envoie des bombes se fracasser contre le Parlement en octobre 1993, lors du conflit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. On peut aussi parler peut-être d'une démocratie élitiste, dans le sens où ce sont les meilleurs qui gouvernent. Les meilleurs, non pas au sens moral, mais y compris les plus cyniques ou les gens sans scrupules dans le monde des affaires. Ce sont aussi les meilleurs. En revanche, du côté du peuple, dans sa réalité sociologique, dans la réalité de la vie au quotidien des gens, ce fut le désastre. Une énorme précarité, un appauvrissement qui a conduit à un retranchement sur soi-même, sur la sphère du proche. Les gens luttaient pour survivre, c'était le règne de la débrouille. Beaucoup de gens se sont écoulés dans l'alcoolisme, règne des petites magouilles aussi, délitement du lien social, méfiance. Et cela a donné lieu à un grand désenchantement démocratique. La démocratie a perdu alors tout crédit au sein de la population. La démocratie a été associée à l'image du laisser-faire, du pur rapport de force. C'est le plus malin ou le plus fort qui gagne. C'est le vol des richesses communes, la faillite économique et sociale. C'est développer un processus de dépolitisation maximale, la politique étant sale, trompeuse et mystificatrice. La démocratie connaît donc une totale désaffection populaire et elle aurait pu s'effondrer comme un château de cartes à la fin des années 90 puisqu'elle était privée de tout appui social. Et c'est sans doute pour ça que l'un des premiers vastes mouvements de mobilisation, celui qui a eu lieu en 1998, a fait peur. Il s'agit de la mobilisation qui est partie en premier lieu des mineurs, mais qui a été rejointe par différentes catégories professionnelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, blocage des voies de chemin de fer, blocage du transsibérien, camps de protestation permanents au centre de Moscou, d'autres camps semblables dans d'autres villes, plusieurs expériences de prise de contrôle de leurs entreprises par les ouvriers, sur une revendication de paiement des salaires. Mais politisation assez rapide. Et les gens sont venus, les protestateurs en sont venus à demander la démission de Boris Yeltsin. Et le krach financier approchant, Boris Yeltsin a démissionné. Et le sentiment s'est installé dans les sphères du pouvoir qu'il fallait à tout prix retrouver une source de légitimité pour sauvegarder le régime, cette démocratie capitaliste libérale. Et c'est là que Poutine est apparu. Donc, troisième étape, ce sont, disons, les années 2000, que j'appelle la démocratie gouvernée ou la démocratie dirigée, du nom, c'est un intitulé utilisé par l'idéologue du Kremlin à l'époque, Surkov. Se développe le discours de la gouvernance ou du contrôle d'État. Et c'est un discours qui a redonné légitimité au régime parce qu'il a été appliqué en grande partie dans les faits, c'est-à-dire reprise en main par l'État, par les dirigeants politiques contre les dirigeants économiques. Ça ne signifiait pas que les dirigeants économiques ne pouvaient plus s'enrichir, mais ils ne devaient plus avoir la possibilité d'influencer autant la sphère politique. Une lutte démonstrative contre les oligarques, vous vous rappelez peut-être du cas de Khodorkovsky, qui a été emprisonné, un processus de centralisation, une restauration du monopole de la violence par l'État, donc une lutte contre le petit banditisme, la reprise en main des médias par l'État, et est affichée la dictature de la loi. Liée aussi avec des réformes législatives qui mettent, si vous voulez, la loi au niveau des rapports de force existants dans la société. Également une relance économique dans les discours et dans les faits qui a bien entendu été un des facteurs ou le facteur essentiel qui a redonné la légitimité à cette démocratie, puisqu'il y a eu croissance économique, relance de la production et l'augmentation également des prix du pétrole et du gaz sur le marché international a permis de reconstituer la rente pétrolière et donc de financer en partie une amélioration de la protection sociale. Donc le régime a effectivement recouvert une certaine légitimité, même si l'on ne peut pas dire que cette légitimité soit liée avant tout aux yeux des gens, en particulier par sa qualité démocratique. Bien plus important était la stabilité, la relance économique, ces mots d'ordre qui apparaissent au niveau du discours public, la paix sociale, une Russie unie, du nom du parti au pouvoir, donc sans division importante, sans division sociale importante, menaçant la stabilité. Et on assiste donc, de façon générale, à une certaine réconciliation de la Russie, de la société, on va dire, et du pouvoir, qui est bien sûr mise en scène dans les médias. Les instruments privilégiés pour créer cette image de réconciliation, c'est avant tout les médias, les sondages aussi et les statistiques qui créent cette image du calme social, du soutien de la population au régime et du contentement de la société. Alors, de quelle démocratie s'agit-il à cette époque ? C'est une démocratie de pacte social, mais il y a débat. Certains politologues, surtout parmi les opposants libéraux à Poutine, parlent de pacte social au terme duquel le régime achète le silence ou la loyauté du peuple contre du saucisson. Ce qui prouve bien l'absence de démocratie, selon eux, puisque la démocratie ne se réduit pas au saucisson. Parmi les politologues plus préoccupés de la réalité des luttes d'influence internes au système, l'idée est plutôt l'existence d'un pacte entre les différents clans oligarchiques et élites régionales pour maintenir le statu quo, la stabilité autour de Poutine qui fournit sa légitimité au système. Donc une sorte de démocratie de lobbying souterrain. Au total, je dirais qu'on a une démocratie libéral plutôt classique, avec un large soutien populaire, une légitimité, avec sans doute un appareil d'État de contrôle et de répression plus développé que la moyenne, mais sans répression massive, et une forte capacité de manipulation de l'opinion publique par les médias et les sondages, avec en plus des partis faibles. Il y a aussi, dans les années 2000 et surtout à partir du milieu des années 2000, le peuple mobilisé qui arrive sur le devant de la scène. Il s'agit d'une minorité, mais existante, avec de plus en plus de mobilisations depuis 2005, des mobilisations sur des thèmes sociaux, sur le thème des protections sociales, sur le thème de la protection sociale, le thème du logement, de l'éducation, de la santé, du travail. Ces mobilisations sont rendues possibles justement par l'amélioration de la situation économique. Et ce qu'il est important de préciser, c'est qu'il y a une certaine réaction de la part du gouvernement qui parfois recule face aux revendications, face aux protestations, et retire certaines de ces réformes. C'est par exemple l'exemple de la vaste mobilisation contre la monétisation des avantages sociaux, qui a été surtout le fait des retraités, mais pas uniquement, et qui a obtenu en grande partie gain de cause. Mais de manière plus générale, en dehors de ce peuple mobilisé qui constitue malgré tout une minorité, nous avons un peuple loyal et satisfait de la stabilité, un peuple qui méconnaît les mobilisations, et ça c'est aussi une caractéristique, qui méconnaît les mobilisations parce qu'elles ne sont pas montrées en général à la télévision. Et donc ce peuple qui imagine que tout le monde est content, c'est aussi également un effet des sondages qui développe cette image, encore aujourd'hui. Et nous avons donc le mythe du peuple réconcilié avec la démocratie dirigée qui s'instaure. Le mythe du peuple passif aussi, surtout chez les intellectuels libéraux. Commence aussi à se développer la rhétorique populiste. Poutine devient une sorte de tribun du peuple. Une rhétorique qui est lancée à la suite de ce grand mouvement de mobilisation contre la monétisation des avantages sociaux, contre la réforme de la protection sociale en 2005, mais qui s'accentue par la suite, notamment à la suite de la crise économique de 2008, qui ralentit la croissance économique russe et suscite de multiples conflits du travail. Et on voit que... on a l'impression, en tout cas, qu'une peur panique s'installe dans les cercles au pouvoir, due à la peur de perdre le contrôle sur les mobilisations sociales. Et il y a des agences qui sont mises en place pour surveiller les syndicats. Il y a des cas qui se multiplient de violences physiques sur les militants, par exemple, à cette époque. Et d'un point de vue de la mise en scène populiste, on a aussi une mise en scène caractéristique, par exemple, en Russie, un cas très connu, très médiatisé, de comment Poutine a réglé le conflit social, le conflit du travail à Pikalevo, une petite ville mono-industrielle à quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg, où les ouvriers, les salariés, appuyés par leurs familles, sont sortis dans la rue, ont bloqué les routes pour demander le paiement des salaires. Et cette ville est dominée par des grands groupes industriels, les oligarques, dont un particulièrement connu, Deripaska. Poutine, devant les caméras de télévision, lui a fait la leçon. Il lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu ne paies pas les salaires? Viens ici tout de suite, tu vas signer le paiement des salaires. » Devant les caméras, il l'a humilié et bien entendu, ça a été très apprécié, on va dire, dans la population. Donc, il se développe ainsi l'image de Poutine comme en tant que défenseur du peuple. Se met en place aussi une démocratie directe par la voie d'Internet. Les gens, et c'est très populaire, peuvent envoyer directement des lettres, se plaindre à Poutine, et en général, on leur répond. Il y a aussi cette scène que tout le monde connaît en Russie, des communications télévisées directes entre Poutine et les gens de la rue. Il y a des caméras dans différents coins de Russie où les gens peuvent poser directement leurs questions à Vladimir Poutine. Donc, et à l'inverse, il y a mise sous contrôle des ONG et des autres médiateurs de la société civile. Donc, sorte de démocratie directe populiste. Malgré tout, et je le précise, il y a un respect ostentatoire de la Constitution, puisque, là, par exemple, la durée d'exercice de la fonction présidentielle est limitée à 2 mandats. Donc Poutine ne se présente plus aux élections de 2008. C'est Medvedev qui devient président à sa place. Bon, j'arrête là, je continuerai après. La quatrième étape, arrive un mouvement qui déstabilise, que personne n'attendait, dont vous avez sans doute entendu parler, le mouvement pour les élections honnêtes de 2011-2012, un mouvement de protestation massif qui a eu lieu surtout à Moscou et Saint-Pétersbourg, mais pas seulement, et qui enraye la belle machine de la fondation du mythe de la démocratie dirigée, réconciliée avec le peuple. C'est un mouvement de protestation contre l'autocratie, contre la démocratie de façade. Contre, justement, ce tour de passe-passe, qui s'est opéré entre Medvedev et Poutine, puisque Poutine s'est représenté 4 ans après, Medvedev lui ayant laissé la place. Donc, c'est la mobilisation, l'image du peuple contre le pouvoir autocratique, contre les falsifications électorales aux élections parlementaires, aux élections présidentielles. Et c'est un événement qui a été montré, fait rare, à la télévision et qui a donc eu un certain retentissement chez les gens. Les protestataires sont également descendus dans la rue au nom du peuple, contre le pouvoir non démocratique qui bafoue les règles procédurales de la démocratie. Les gens avaient l'impression qu'on se moquait totalement de la voix des électeurs. Mais au nom du peuple, mais quel peuple ? Il s'agit de mon point de vue, mais pas seulement du mien, du peuple moral, c'est-à-dire le peuple des meilleurs qui se soulève contre les falsifications, contre les mystifications, qui ne supporte plus l'humiliation de ne pas compter, le peuple des blancs. C'était le symbole des protestataires à l'époque, le ruban blanc. Un peuple apolitique, hein, puisque toutes les couleurs politiques étaient représentées, des ultranationalistes aux libéraux et aux gens de gauche. Et un peuple également culturellement raffiné. Il y avait beaucoup d'écrivains, d'artistes. Et en général, on observe dans les discours des uns des représentants, des manifestants, une opposition entre le bien et le mal. C'est-à-dire entre ceux qui sont moralement plus avancés et le mal, c'est-à-dire Poutine, l'autocrate, le mal, c'est-à-dire le parti des voleurs et des escrocs, selon donc l'expression désignant le parti au pouvoir, du blogueur qui est devenu chef de file de l'opposition aujourd'hui, dont vous avez entendu parler sans doute, Alexei Navalny. Mais la question sociale est absente, ou quasi absente, de ces mobilisations. C'est sans doute ce qui explique en grande partie le fait que, dans les régions, le mouvement était très peu suivi. Le discours de Poutine, par rapport à ses protestataires, il les traite de hamsters de la toile, c'est-à-dire des petits animaux qui n'ont rien d'autre à faire que de passer leur temps sur Internet. Les hipsters, avec leur iPhone, leurs cheveux longs et leurs fringues à la mode. Les privilégiés, et puis peu à peu, ce sont des traîtres à la nation vendus au Pentagone. En conséquence, s'impose l'idée, dans les médias, dans les publications académiques également, de l'existence de 2 Russies ou 2 peuples. Celle, d'une part, des cultivés, des intelligents, qui ne se laissent pas zombifier par la propagande et s'opposent à Poutine, et celle, d'autre part, des régions, des catégories populaires paternalistes qui s'abreuvent de télévision, sont serviles, cyniques, immorales. Il s'agit bien entendu de 2 caricatures au signe inversé. la vision la Russie progressiste contre la Russie réactionnaire, la haute culture contre la basse culture, et Poutine prend fait et cause pour la Russie moquée par l'élite privilégiée et cultivée. Et il défend donc publiquement la dignité des paysans et des ouvriers, la dignité des gens des régions. Avec l'essoufflement du mouvement de protestation vers 2012, la fin 2012, et la rancœur parmi les intellectuels libéraux envers la Russie profonde qui ne s'est pas associée suffisamment au mouvement, les qualificatifs dépréciatifs se sont accumulés. Et on parle, pour évoquer les gens des régions, de « vatniki » en russe, c'est-à-dire ceux qui portent cette veste matelassée typique du paysan russe, du moujik. On peut traduire par les ploucs, les beaufs en français. Ça donne bien l'idée. Alors qu'au contraire, Poutine encense la Russie profonde, le peuple russe travailleur et consciencieux, défenseur de la patrie. Donc ça sort une sorte de conflit autour de la définition du peuple. D'un côté, c'est le peuple des bons citoyens cultivés et libres. De l'autre, le peuple des ploucs zombifiés, selon une version, ou le peuple des travailleurs dignes et patriotes, selon une autre version. Quoi qu'il en soit de la réelle perception par la population de ce débat, une chose ou deux choses sont sûres. Premièrement, la catégorie de peuple s'impose dans l'espace public, ce qui est nouveau. Et deuxièmement, le peuple peut faire l'objet, il s'avère que le peuple peut faire l'objet d'interprétations différentes et contradictoires. Par exemple, dans les entretiens que je fais encore aujourd'hui avec des gens très différents, y compris dans les régions, il m'arrive d'entendre dire « nous ne sommes pas des vatniki ». Nous sommes des citoyens dignes de ce nom. Donc, ces propos, ces images descendent, sont repris par la population. Cinquième étape, c'est les années 2012-2015. Je dirais que nous assistons au triomphe de la démocratie de la nation souveraine, cette démocratie populiste et nationaliste. Et on glisse de la notion de peuple à celle de nation. Donc c'est la période où le Kremlin construit le peuple-nation, avec bien entendu ce que vous connaissez, l'annexion de la Crimée en 2014, mais aussi le discours de résistance de la Russie face à l'impérialisme occidental et la défense des intérêts et valeurs propres à la Russie. Discours populaire en Russie. Discours souverainiste, donc, mais en fait, ça ne signifie pas que l'idée est communiquée d'un peuple souverain. Il s'agit beaucoup plus d'une confiscation de la souveraineté populaire par le leader national, qui concède sa souveraineté au peuple national par délégation. Les gens se sentent souverains grâce à Poutine. Poutine devient le symbole de la nation retrouvée. Mais je voudrais tout de même insister sur l'importance pour la reconstitution du lien social, pour comprendre ce qui se passe en général dans la société russe, l'importance de la restauration du sentiment de fierté nationale après l'humiliation importante qu'ils ont subi, qu'ils ont vécu dans les années 90, avec la perte brutale de l'Union soviétique, de la patrie de l'époque, de leur patrie de socialisation, ce qui a donné lieu à un traumatisme national conceptualisé par des sociologues par ailleurs, et qui a conduit davantage les gens à avoir honte de leur pays qu'à s'en enorgueillir. Donc Poutine et le discours du Kremlin met fin à tout ça et restaure la fierté nationale. Il y a aussi un fort discours populiste, puisque qui continue à se renforcer, puisque Poutine continue à encenser le peuple travailleur qui devient la patriote, c'est-à-dire un peuple œuvrant à la grandeur de la Russie. Et le peuple devient nation, mais ce n'est pas une nation au sens ethnique du terme. Le peuple-nation, c'est ceux qui défendent les valeurs russes traditionnelles, la culture classique, la famille traditionnelle, les mœurs traditionnelles, le travail, la capacité mythique des Russes pour le sacrifice et également le collectivisme mythique contre l'égoïsme occidental. Et Poutine devient une sorte de symbole. Il concentre sur lui toutes ses significations, sur sa personne. Il incarne la grandeur retrouvée de la nation et du peuple. Il y a donc une charge émotionnelle importante qui se concentre sur cette figure symbolique. Ce n'est plus une personne Poutine, c'est un symbole national. Et l'opposition, bien entendu, quant à elle, devient traître à la nation. C'est la cinquième colonne, la menace pour la stabilité du pays, la menace pour la souveraineté nationale. Dans le même temps, évidemment, les élites politiques et économiques se regroupent autour de la figure de ce leader national qui devient le gage du maintien du statu quo. À l'inverse, dans l'opposition libérale, se développe un discours anti-populiste et anti-patriotique. On a donc l'image d'un peuple de serviles zombifiés soutenant tous Poutine par manque de culture et de goût pour la liberté. Jamais n'est mis en doute l'aspect non démocratique, l'essence non démocratique du régime actuel. On débat sur les différents qualificatifs. Il y a un nombre important de politologues, surtout, qui ont mis sur le devant de la scène le terme de régime autoritaire ou régime électoral autoritaire, c'est-à-dire autoritarisme mais avec des élections. Des gens comme Gelman Gorosov, si vous connaissez. Un petit débat contre d'autres politologues qui mettent plutôt en avant le terme de régime hybride, ni complètement démocratique, ni complètement autoritaire. Par exemple, Ekaterina Schulman. Et dans leur tête, comme point de référence reste le modèle démocratique, qui est un modèle démocratique libéral occidental idéalisé. C'est-à-dire fait de concurrence absolue entre les meilleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette opposition, les intellectuels libéraux en Russie ont été très déçus par l'élection de Donald Trump. Mais cette opposition, par ailleurs, se fait de plus en plus minoritaire, puisque de nombreux participants, y compris au mouvement de protestation pour les élections honnêtes, ont rejoint les camps des défenseurs de Poutine, surtout après l'annexion de la Crimée, sur le thème de la défense de la nation. Et d'autres opposants, comme par exemple Alexei Navalny, sont passés à une opposition beaucoup plus sociale et plus également nationaliste. Quant au peuple mobilisé, cette figure est restée, mais il s'agit dans ces années-là, donc 2012-2015, de mobilisation pro-Poutine, qu'on dit instrumentalisée et manipulée par le Kremlin. Les entretiens, les recherches que j'ai faites, ainsi que mes collègues, montrent bien que une grande partie des gens, participent à ces mobilisations d'une façon complètement spontanée. Et j'en arrive à ce qui se passe actuellement. Donc, depuis, disons, 2016, ce que montrent mes dernières enquêtes. Et je voudrais faire un petit essayer de vous montrer ce que je sens frémir dans mes enquêtes les plus récentes. En me posant une question, peut-on parler d'une populisation du peuple? Alors, populisation, c'est un terme que j'ai créé, ou peut-être il existe quelque part, je n'ai pas trouvé. J'entends la constitution d'un sens d'appartenance au monde et à l'espace populaire. L'avènement d'une sorte d'imaginaire populaire. Ou peut-être, plus simplement, la constitution d'un peuple populaire, d'un peuple social. Encore une fois, quoi qu'il en soit des connotations négatives ou positives, des qualificatifs adjoints au nom de peuple, il reste que cette catégorie s'impose désormais dans l'espace public, alors qu'elle avait été longtemps invisible, ignorée ou unilatéralement vilipendée. Donc, le discours populiste ou même antipopuliste d'en haut, en provenance des élites, peut aider, de mon point de vue, à la formation d'un certain peuple populaire, y compris non conforme aux attentes des propagandistes. Ce peuple peut être approprié par ceux d'en bas qui se font leur propre entendement, compréhension de ce qu'est le peuple. On peut envisager, c'est pour ça que l'étude plus fine d'un certain populisme d'en bas est indispensable. Bon, il y a également d'autres processus en cours, plus sociologiques ou liés à l'expérience de vie des couches populaires qui jouent dans l'ouverture de cet imaginaire populaire, mais je ne vais pas parler de ça maintenant puisque ce n'est pas le sujet. Concernant mon sujet, deux mécanismes, à mon avis, sous-tendent cette populisation dont je vois les signes actuellement. Premièrement, l'ouverture d'un imaginaire social et deuxièmement, une certaine différenciation sociale, un clivage qui apparaît entre eux et nous. L'imaginaire social, une conception inspirée par Castoriadis, est la capacité de se projeter au-delà des connaissances personnelles, au-delà du milieu local, du milieu du proche dans lequel s'étaient retranchés les Russes dans les années 90, afin d'appréhender un ensemble social plus large, le plus souvent de dimension nationale, ce qu'écrit Benedict Anderson. La dimension nationale est importante, de mon point de vue, pour ouvrir l'espace de cet imaginaire social. On peut tout à fait bien concevoir un nationalisme, là aussi, d'en bas, ainsi que nous l'y incite, par exemple, Hobsbawm. C'est un peu la capacité d'imaginer un peuple auquel je fais partie, qui partage mon expérience, et cette capacité nécessite la possibilité de se projeter dans un espace plus large, de se projeter dans l'espace national, de penser qu'il y a des autres gens comme moi qui vivent ailleurs, à s'extraire au moins en imagination de son environnement proche. Quant à la différenciation par rapport aux autres groupes sociaux, les données de mon enquête là, que je suis en train de faire sur le nationalisme russe ordinaire confortent l'hypothèse d'un patriotisme véhiculant des significations très diverses. Par exemple, beaucoup de gens critiquent le patriotisme de façade des classes dirigeantes qui envoient leurs enfants étudier à l'étranger, qui ignorent complètement le bien commun du peuple national. Il y a aussi des clivages socio-économiques qui réapparaissent dans les conversations, qui font la trame d'une recomposition des liens sociaux entre pairs et les repères d'une vision plus générale de la société. Surtout, par exemple, l'opposition entre riches et pauvres, dont on n'entendait plus parler dans les années 90. On ne voyait plus dans quelle société on vivait. On vivait-on encore dans une société? Riches et pauvres, patrons et ouvriers, ceux qui travaillent et produisent contre ceux qui profitent. Grandes villes du centre, qui sont riches, qui concentrent toutes les richesses, et petites villes de province. Ce sont les oppositions le plus souvent exprimées et vécues dans les entretiens. Et qu'est-ce que le populisme ? J'entends bien qu'il s'agit d'un terme abstrait et polysémique. Mais je voudrais ici surtout rappeler ses liens avec la démocratie. En se fondant sur l'histoire du concept ainsi que sur les expériences populistes que connaît l'Amérique latine, par exemple, Federico Tanguini, Tarragoni, dans sa thèse, définit le concept d'une manière qui m'est proche. Et je cite, « Le populisme, donc, c'est une politique structurée par un appel au peuple aux vertus refondatrices. Une telle définition laisse ouverte la question du caractère démocratique ou antidémocratique du populisme. L'appel au peuple pouvant conduire tant à l'exclusion des étrangers à la quête de l'ennemi qu'à des pratiques ou discours inclusifs et émancipatoires, notamment en permettant à des groupes subordonnés et invisibles de se frayer un chemin vers le politique. Ce que Rancière appelle la reconfiguration du partage du sensible, où cette, et je cite parce que j'aime beaucoup, cette distribution et cette redistribution des places et des identités, ce découpage et redécoupage des espaces et des temps, du visible et de l'invisible, du bruit et de la parole. Alors, se peut-il que certaines couches populaires en Russie recouvrent la parole ? C'est ce que j'ai envie de dire. Et cependant, malgré, en Russie, qu'en est-il du populisme ? Malgré l'expérience populiste historique, il ne faut jamais l'oublier, c'est les années 1840-1880, celle des Narodniki, c'est-à-dire l'expérience des intellectuels, de ces intellectuels révolutionnaires qui prônent un nécessaire retour vers le peuple contre le tsarisme dans l'idée d'un ressourcement de l'intelligentsia auprès des paysans et des communautés villageoises, le terme de populisme est aujourd'hui, dans les milieux intellectuels libéraux, synonyme d'autoritarisme démagogique. Et cette vision se traduit par la dénonciation du populisme nationaliste poutinien, révélateur du conformisme, de l'inculture et du nationalisme grand russe de la majorité de la population. Bon, à l'exception de ces minces couches de la population concentrées sur Moscou et Saint-Pétersbourg. Population éclairée, bien entendu. À l'opposé, le discours populiste poutinien, qui a un large écho parmi la population, puisque grâce aux médias, peut également fournir un canal accessible aux couches populaires, longtemps dénigrées, pour donner un sens à leur mécontentement, pour se forger une dignité et se reconnaître, pour s'approprier un certain aspect populaire du peuple. Et ma position est que le populisme, en tant que reconnaissance du pouvoir politique du peuple, est central pour penser la démocratie et le politique. La signification du peuple, bien entendu, faisant problème et exigeant une analyse nuancée. Mais afin de ne pas ôter au populisme sa dimension démocratique et émancipatrice, et sans en nier l'éventuel potentiel aliénant et excluant, je rejoins la conception qu'en donne Ernest Laclos, pour lequel le populisme est essentiellement une construction discursive, développant une conflictualité autour de la définition de ce signifiant vide, le peuple. Et en mettant le peuple au centre des discours, des préoccupations, des polémiques, le populisme actuellement en Russie ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur la façon dont le peuple se fait et se défait, selon des lignes de clivage et des acceptations différentes. Et donc, il ouvre la voie à une certaine populisation, à une ouverture de l'imaginaire populaire. Et pour finir, la Russie actuelle, de mon point de vue, montre bien l'un des chemins que peut prendre la constitution d'un sens du social, d'un sens de faire peuple, après une longue période de déliquescence et de destruction du social. Dans le cas de la Russie, le chemin peut passer par un discours nationaliste et populiste, grâce auquel ou contre lequel s'affirme une critique sociale. Certes, le peuple social qui apparaît ne se montre pas d'emblée démocratique. Les revendications ou aspirations que j'obtiens dans les entretiens sont avant tout d'ordre social. Les gens demandent une redistribution des richesses nationales, un État libéré du contrôle de l'oligarchie. Certes, ce peuple n'est pas un, n'est pas uni, mais traversé de nombreux clivages sociaux. Certes encore, ce peuple est loin d'être mobilisé ou même politisé. Il s'agit surtout de l'éveil d'une conscience, d'un sens social. Les gens ne sont pas prêts à aller dans la rue et se disent très impuissants pour essayer d'influencer dans une mesure quelconque le rapport de force actuel. Cependant, il me semble que la découverte ou la refondation de la démocratie à l'âge de la précarité et de la globalisation capitaliste peut passer par là, donc par les chemins d'une redécouverte d'un populisme par le bas.
Merci de cet exposé. On a envie de vous poser une montagne de questions, donc je vais quand même poser une petite colline de questions. La première, une remarque sémantique, l'expression de démocratie gouvernée a été employée dès les années 60 par un professeur de sciences politiques de Paris 1 qui s'appelle Georges Burdeau. Et dans son grand traité en 12 volumes de sciences politiques, il y a un volume qui s'appelle « Démocratie gouvernante et démocratie gouvernée », où il fait l'opposition qui est beaucoup plus large que celle de démocratie représentative et démocratie directe, mais pour bien montrer qu'effectivement, la démocratie peut être aussi appréhendée soit à partir de ses procédures. Donc, à ce moment-là, on va mettre l'accent sur les formes de participation, les formes d'élection, où la démocratie peut être aussi abordée à partir de ses résultats. Et à ce moment-là, la démocratie gouvernée, ce sera, disons, la démocratie pour le peuple. Donc, cette opposition est une opposition classique en sciences politiques. D'abord, vous posez un certain nombre de questions factuelles. Quand vous avez décrit la rhétorique du poutinisme, vous avez mis l'accent sur la défense du peuple d'en bas et vous avez montré le glissement progressif ou l'élargissement de cette vision du peuple d'en bas que l'on défend contre les élites et que l'on défend contre les oligarques, je reviendrai sur la question, et puis ce glissement vers le nationalisme. Vous n'avez absolument pas parlé d'une dimension qui, vue de l'extérieur, paraît importante, celle de la religion, à savoir que Poutine aime se mettre en scène avec Kirill, qui est le chef de l'Église orthodoxe, et sans apparaître comme le chef des croyants, il apparaît comme l'intime, je dirais, des responsables de l'Église orthodoxe. Et ça, c'était quelque chose de très... qui dépasse Poutine, parce que Poutine affirme cette proximité, mais cette proximité, on l'a vu réaffirmer presque dès le début de la période d'Eltsine. Donc, comment vous analysez ce rapport à la religion, et qu'est-ce qui marque la spécificité de Poutine à cet égard, c'est-à-dire la reconstruction des grandes églises à Moscou et dans d'autres villes, ça se passe très vite. Et qu'apporte Poutine à ce moment-là? Quel type de rapport spécifique entre politique et religion, puisqu'il semble manifester accorder une importance très grande à cette dimension. Et pouvez-vous nous dire de la même façon, en passant, c'est une question factuelle, quelle est la situation des croyants en Russie? C'est-à-dire, quelle est l'Église était, enfin la religion était quand même bannie du temps du communisme. Qu'en est-il de la pratique religieuse? Y a-t-il une différence entre pratique religieuse et vision un peu générale de l'Église ou de la religion? Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éléments là et nous dire après, plus précisément, concernant Poutine, quel rôle cela joue dans son nationalisme? Est-ce que l'Église elle-même, elle défend le peuple croyant d'en bas contre les élites incroyantes, si je puis dire?
Je vais essayer de répondre, n'étant pas moi-même une spécialiste de la religion. Concernant donc la deuxième partie de la question sur les pratiques religieuses, je dirais que les sondages n'indiquent pas un nombre très important de gens pratiquants. Par contre, ce qui est important, beaucoup plus important pour les Russes, c'est la culture orthodoxe, plus que la religion. Peut-être la croyance, mais il s'agit moins de croyance que de tradition, on va dire. Mmh. Voilà. Et c'est un peu la même chose dans la rhétorique de Poutine. C'est plus l'orthodoxie en tant que symbole de la nation russe, en tant que symbole des mœurs traditionnelles russes. Plus que là aussi la croyance, parce que il est difficile quand même dans un pays pluriethnique et pluriconfessionnel, tout de même d'imposer l'idée de la supériorité d'une des religions. Et autant que je sache, il ne le fait pas directement. Il s'appuie plutôt sur l'orthodoxie pour justement renforcer son image de leader national, l'orthodoxie étant beaucoup plus conçue comme une culture. Et donc, il se rend aux célébrations de la Pâque orthodoxe de ce point de vue-là, comme font tous les Russes. Voilà. Plus dans ce sens-là, il me semble. Le patriarche Kirill, est-ce qu'il parle au nom des croyants d'en bas? Je ne suis pas du tout une spécialiste, mais ce n'est pas mon impression. Il y a beaucoup plus. Il y a des débats au sein de l'Église, que je sais. Il y a des prêtres, je ne sais pas, des popes, qui sont plus critiques à l'égard de cette Église. C'est quand même très hiérarchique comme structure, très très hiérarchique. Et c'est plutôt le discours de la part du patriarche du soutien au pouvoir, du soutien à la stabilité, la reprise du discours poutinien, on va dire, du point de vue du patriarche.
D'accord. C'est important d'apporter cette précision parce qu'en même temps, on voit bien que l'Église orthodoxe, elle se lie aussi à un sentiment occidental, anti-occidental,
oui,
assez fort. Et je dirais que l'orthodoxie reste tout de même la religion chrétienne qui est la moins impliquée dans toutes les formes d'écuménisme par rapport à d'autres, c'est très notable. Venons-en un peu au cœur, à la question du populisme, à la question de la démocratie en Russie et de sa critique. Une chose frappante dans ce que vous avez expliqué, c'est que d'une certaine manière, vous montrez une opposition qui est d'abord une opposition libérale, entre guillemets, c'est-à-dire une opposition qui fait la critique du pouvoir comme un pouvoir illibéral. D'un pouvoir, grâce à son poids dans les médias, grâce à la persécution qu'il mène vis-à-vis d'un certain nombre de journalistes ou de personnalités. Et ça me frappe assez parce que c'est exactement un peu le piège dans lequel se trouvaient les républicains français sous le Second Empire. Sous le Second Empire, les républicains français faisaient une critique libérale du régime en disant « Regardez, il muselle la presse, regardez, il interdit les manifestations, il n'y a pas d'opposition. » Mais ils ne faisaient pas, et c'est qui semble, ce que je comprends de votre exposé, il ne faisait pas de critique proprement démocratique de Poutine, c'est-à-dire que de Napoléon III. Et là, j'ai le sentiment que c'est un peu la même chose. Une critique libérale de Poutine, qui est certainement juste et appropriée, parce qu'on voit bien les formes, les conditions dans lesquelles des libertés sont bafouées, mais on ne voit pas que cette opposition propose une lecture alternative de la démocratie autre que cette critique. Et par exemple, vous avez souligné concernant la période plus récente, ne parlant pas le russe, je manque, vous allez peut-être voir à quoi ça correspond, mais en tout cas dans l'entourage de Poutine, on a beaucoup utilisé la notion de démocratie souveraine. Démocratie souveraine voulant dire que la démocratie ne doit pas simplement s'appréhender, je dirais, comme une modalité de participation, mais la démocratie est comprise comme un mouvement d'affirmation collectif et un mouvement de direction collectif. Là, vous avez bien, dans votre exposé, montré cette dimension de démocratie commandée, d'un certain point de vue. Hein. Et quel est le débat qu'il y a, par exemple, en Russie, autour de cette notion de démocratie souveraine ? J'étais frappé quand vous parliez de l'opposition libérale. Il parle de régime électoral autoritaire, mais ça n'est pas une vraie qualification, parce qu'on met, ou démocratie hybride non plus, on met côte à côte deux choses. C'est-à-dire que si on dit que le régime de Poutine est électoral autoritaire, on ne le situe pas dans une lecture critique de la démocratie. On le montre comme hybride, donc ça n'est pas véritablement une analyse critique. Quelles sont les analyses intellectuelles qu'il y a quels sont les livres? Est-ce que le régime, vous parliez tout à l'heure d'Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, il a tout de même été extrêmement, il est argentin, même s'il enseigne en Angleterre. Il était très influent auprès des Kirchner en Argentine, et on peut dire que le populisme latino-américain a eu ses véritables théoriciens. Et quelqu'un comme Laclau, que l'on peut approuver ou critiquer, mais c'est quelqu'un qui a une théorie charpentée. Et quels sont les théoriciens charpentés de ce mouvement ? Parce que là, vous montrez comment, au fond, c'est une espèce de pouvoir personnel qui s'appuie vers le bas, avec l'Église, l'ultranationalisme, mais on ne voit pas quelle est la charpente. Quelle est la théorie ? Est-ce qu'il y a une théorie intellectuelle derrière ? Il n'y en a peut-être pas besoin, d'ailleurs, mais
À ma connaissance, il n'y en a pas.
Non. Donc, il n'y a pas de théorie de Poutine, il n'y a pas de théorie des critiques de Poutine. C'est le magma total.
Oui, je pense que c'est... Vous avez vu combien ça change régulièrement. Mmh. On s'adapte à ce qu'on ressent de ce qui se passe dans la société. Et je ne pense pas qu'il y ait une théorie, de mon point de vue. Enfin, il faudrait aller voir ce qu'ils lisent, etc. Mais...
Bon, ne lisant pas le russe, je ne peux pas aller plus loin dans la discussion. En revanche, on doit faire une distinction entre le populisme comme... admettons que le qualificatif de populisme puisse être appliqué au régime poutinien, le populisme comme régime et le populisme comme rhétorique, comme mouvement social, car on voit bien que le populisme comme rhétorique, on pensait inévitablement à Trump quand vous avez parlé de la façon dont le petit peuple d'en bas, méprisé, etc., a été valorisé par Poutine. Ben, Trump a dit ça aussi dans sa campagne. La différence, c'est qu'après, il a fait une politique d'oligarque, dirait-on, dans le langage russe. Mais si on compare ce qu'on peut appeler des régimes populistes, il y a un certain nombre de points communs qui apparaissent bien dans votre exposé. Un premier point commun qui est très important, c'est le fait que l'opposition est rapidement ramenée à la catégorie d'usurpation, à la catégorie du traître. On peut dire qu'une vraie caractéristique de la démocratie pluraliste, c'est qu'on reconnaît que l'opposant n'est pas forcément un ennemi, que l'opposant, parce qu'il s'oppose pour des raisons de, de valeur, pour des raisons de politique, il a sa place. Alors que là, dans les régimes populistes, et la Russie à ce moment-là en sera un exemple, mais c'est typique aussi de ce qui se passait en Bolivie ou ce qui se passe au Venezuela. À ce moment-là, on peut dire que l'opposant devient l'ennemi et devient le traître aux intérêts du pays. Donc là, il y a une différence très grande, parce qu'à ce moment-là, on peut dire que l'opposant, il n'est pas légitime de le supprimer, mais celui qui est le traître, on peut dire qu'il peut devenir légitime de... D'ailleurs, c'était le langage de Napoléon III. Napoléon III disait, mais moi, si je supprime la liberté de la presse, c'est que la liberté de la presse, elle n'est pas au service de la société. Ce sont des petits intérêts particuliers qui cherchent à manipuler le pays. Et donc, d'un point de vue démocratique, je suis fondé à faire taire ces gens-là. Donc ça, là, on a un point qui apparaît archétypique dans le gouvernement poutinien. C'est la démonisation. Enfin, l'opposant est un ennemi de la patrie, un traître.
C'est central. Cette idée est centrale, cette idée de comment les pouvoirs, mais pas seulement poutiniens, les différents pouvoirs qui se sont succédés en Russie, y compris l'opposition, comment voit-il effectivement les opposants ? Comment se positionne-t-il par rapport au conflit ? Mais c'est un trait durable qui ne concerne pas seulement le système poutinien. Je veux dire, on a déjà souillé...
C'était la Russie soviétique.
Aussi, oui, peut-être, peut-être. On a déjà sous Poutine... sous Boris Yeltsin, l'idée que tout ce qui n'est pas, tout ce qui est contre nous est communiste, est mauvais, il faut s'en débarrasser, il faut bombarder le Parlement. C'est quand même pas rien, bombarder le gouvernement, le Parlement. Poutine n'a pas été encore jusque-là. Donc, ce sont des ennemis, non pas des opposants. Avant, dans les années 90, c'était parce qu'ils voulaient le retour au communisme. Maintenant, c'est parce que c'est des traîtres à la patrie. Mais de manière générale, il y a un refus du clivage, un refus du conflit. Et justement, dans ce que je disais à la fin, parce que ce sentiment était très largement partagé par la population également, cette peur du conflit. Il faut qu'on soit tous ensemble, tous unis, etc. C'est en train d'être dépassé, selon ce que je vois dans les entretiens, où les gens pensent le conflit et sans vouloir la guerre non plus, sans penser que ça va aboutir à des flots de sang.
Et du point de vue du régime, pouvez-vous nous préciser quels sont les éléments de langage ? Quel est le vocabulaire pour parler justement de l'opposant qui est un ennemi ? Quels sont les mots qui sont employés ?
J'avais dit, c'est la donc traître à la patrie,
oui.
Cinquième colonne.
Oui. Suppôt de l'Occident, là je ne sais pas quel est le terme exact que vous avez employé.
Suppôt de l'Occident, suppôt du
à part de hamster de la toile qui est. Un peu, ou de hipster, je suis frappé de voir que dans les campagnes russes, le hipster est devenu aussi célèbre.
Ah ben, du coup, ça devient des mots connus quand c'est prononcé par le Kremlin, tout le monde le connaît.
D'accord. Alors, il y a une autre question que vous avez abordée pour continuer à réfléchir la qualification du régime comme régime populiste, que vous avez abordée, qui est celle de la réélection. Une des caractéristiques presque universelles des régimes populistes, c'est d'avoir souhaité progressivement, partant de constitutions dans lesquelles, comme presque partout dans le monde, il y a une limitation du nombre de mandats que le pouvoir exécutif peut faire, d'avoir cherché à faire sauter cette limite. C'était le cas de Chavez au Venezuela, c'était le cas de Maduro. Maduro, c'est le successeur de Chavez, du président bolivien, dont le nom m'échappe. C'était aussi Morales. C'était aussi le souhait de Correa en Équateur. Et vous avez vu qu'à sa façon, c'est le débat chinois qui arrive ces jours-ci. Bon. Et là, Poutine, il a rusé, si je puis dire, avec, avec cela, puisque en se retirant de la fonction de président pour occuper pendant la période Medvedev celle de Premier ministre, il a pu passer outre. Mais là, à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'il va quitter le pouvoir très prochainement? Ou bien que, est-ce qu'on parle déjà aussi en Russie de réformes constitutionnelles? Vous citiez Laclos. Laclos, il y a une expression très célèbre qu'il a employée en disant, puisqu'il définissait le populisme à la fois comme une reconstruction horizontale du peuple à partir d'un nouvel antagonisme qui n'était pas simplement l'antagonisme de classe, et ensuite une redéfinition verticale. Le rapport au leader. Et le rapport au leader, il a été amplement démontré dans votre exposé. Et Laclos avait cette formule, il disait, au fond, dans le monde populiste, la démocratie doit inclure la perspective de réélection indéfinie du leader, parce que si le leader, il est en accord, il est en fusion avec la société, eh bien, la société vit, et très bien, il faut que le leader devienne le leader indéfiniment réélu. Quel est l'état des discussions en Russie actuellement, et quel est l'état, des expressions de Poutine, parce que les échéances vont bientôt venir sur cette question de la réélection.
Oui, on a des élections présidentielles en mars.
Mais donc, ça va être son dernier mandat légal, c'est ça?
Non. Alors, je répète. Donc, il a fait deux mandats consécutivement, Poutine, de 2000 à 2008.
Oui.
Ensuite, ils ont fait cette opération.
Il y a
ils
8
se sont
ans.
Échangés, voilà, deux fois quatre ans.
Oui.
Ils se sont échangés avec les rôles avec Medvedev, qui est devenu président, et Poutine est devenu Premier ministre. En 2012, ils ont échangé, donc Medvedev est devenu Premier ministre, Poutine est devenu président. Ça a été une des raisons, un des facteurs déclenchants des protestations. Mais il y a eu déjà cette réforme institutionnelle, donc en 2012, où le mandat est passé à 6 ans.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons les élections présidentielles maintenant. Donc ce serait le deuxième mandat de Poutine qui commencerait, le deuxième mandat consécutif, puisqu'il n'a pas fait, il a fait deux mandats consécutifs, une pause.
Et... Mais là, on ne peut pas imaginer que dans l'avenir, il recommencera à faire la pause, quoi. Là, il en est arrivé à un moment où il y va franchement ou pas.
Non, mais il est bon. Déjà, il n'est plus tout jeune. Donc après 6 ans, je ne sais plus
quel âge a-t-il, Poutine, actuellement?
Il est né en... Qui peut m'aider? 65 ans, il a.
D'accord, ça c'est encore tout à fait...
jeune. Bon. qu'est-ce qui se passe? Les discours, c'est quoi? L'opposition, de son point de vue, personnifie complètement le régime. Mmh. Voilà. Et les débats sont autour de la personne de Poutine. C'est-à-dire, on s'imagine, enfin, ça donne l'impression que si Poutine disparaît, le régime change. Les commentateurs, disons, plus réalistes, qui analysent les luttes de pouvoir, etc., autour du cercle, se disent qu'il va falloir trouver quelqu'un pour remplacer Poutine. Mais où le trouver? Il faut quelqu'un qui soit... Vous voyez, j'ai parlé de tout les symboles et la charge émotionnelle que concentre Poutine. Où trouver quelqu'un d'équivalent? Donc c'est plutôt là-dessus les débats. C'est très personnel. C'est pas sur une réforme institutionnelle.
Vous avez... merci. Vous avez aussi fait référence... dans votre exposé, bon, à la grande tradition du populisme russe des Narodniki. Je signale d'ailleurs que le livre en deux volumes de Venturi, l'italien, est toujours disponible en français. Quelle est la mémoire de cette période aujourd'hui? parce que, justement, ce qui caractérisait ce mouvement populiste en Russie, c'était des intellectuels critiques du tsarisme, et c'est eux qui plaidaient pour un rapprochement avec l'âme du peuple. Et en fait, ce rapprochement avec l'âme du peuple, il était la marque du désir libéral et démocratique des intellectuels. Or, aujourd'hui, vous avez présenté le monde intellectuel comme étant, pour l'essentiel, un monde libéral, entre guillemets, mais un monde qui ne plaide pas, justement, pour un rapprochement dans le sens de celui qui était revendiqué par les Narodniki du 19e siècle.
Cette mémoire est absolument nulle.
Si je dis dans la rue, enfin dans une conversation, si on parle des Narodniki, tout le monde sait de quoi il s'agit.
Je pense pas. Mes étudiants non.
Ah bon, même les étudiants.
Ce qui est symptomatique, c'est que c'est une petite anecdote, mais dans mon cours, en discutant du populisme avec les étudiants, je leur ai demandé parce que en russe. On utilise le mot calqué du latin, populisme.
Ah, d'accord.
On n'utilise pas le mot russe. Donc, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport dans les consciences. Et je leur ai demandé, justement, rappelez-vous, par quel autre mot russe on peut parler de ça ? Et personne n'a su. Quand je leur ai dit le mot, ils ont été tous étonnés. Ah oui, effectivement. Mais donc, c'est pas du tout... C'est complètement déconnecté avec l'expérience historique. Et c'est vrai que dans le monde intellectuel, ils sont très, très éloignés de cette position-là. À l'exception de quelques intellectuels de gauche, très rares, et peut-être à l'exception aussi de quelques intellectuels nationalistes.
Quelle est l'étymologie du mot russe « narodniki » Ça indique
narod,
un sens de la...
« peuple ».
Ça veut dire ?«
Peuple ».«
Narod », c'est « peuple ». D'accord. Et pourquoi, à ce moment-là, « populiski », c'est... Donc, c'est un néologisme. Bon, ben, je crois que tout ce que vous nous avez dit est très... Bien sûr, on a fait aborder, essayer de poser la question. Je voudrais terminer par une dernière question très, très factuelle, aussi sociologique. Comment on peut caractériser, grosso modo, la société russe aujourd'hui d'un point de vue sociologique? Quels seraient les éléments importants à prendre en compte pour avoir en tête la sociologie du monde russe aujourd'hui, la place du monde paysan par rapport encore aujourd'hui, la place de l'industrie grande et petite aussi, par rapport au tertiaire, au service? Quelle est la structure de la population, parce que c'est important. On peut dire que très souvent, les idées libérales sont tout de même liées au fait qu'on entre dans des sociétés qui ne sont plus des sociétés de production, mais qui sont des sociétés de service.
C'est la mauvaise question, parce que en fait, il y a des statistiques, mais des statistiques qui, d'abord, sont beaucoup moins fines que ce qu'on peut trouver en Occident, et ensuite... De mon point de vue, ne donne pas une bonne image de ce qui se passe, parce qu'il y a l'important secteur dit informel. Donc les gens s'auto-emploient ou sont employés au noir ou pas exactement formellement, ou ont plusieurs emplois. Donc, bon, selon les statistiques, il y a quand même encore le maintien du secteur industriel. Une croissance effectivement des services, mais moindre par rapport aux sociétés post-industrielles, je dirais. Mais encore une fois, c'est si on compte les statistiques d'État qu'on peut trouver. Le monde paysan, non, c'est devenu tout petit. Non, c'est encore une société industrielle, mais une société industrielle en crise. Voilà, caractérisée d'un point de vue alors sociologique par des très bas salaires. Voilà, donc il n'y a pas un gros chômage, il n'y a pas une, un gros retrait de la main-d'œuvre du secteur industriel, mais il n'y a pas d'investissement non plus, mais il y a des très bas salaires. Voilà. Et avec, je dirais, autre forte caractéristique de la Russie actuelle, c'est des inégalités sociales faramineuses. Là aussi, qui ne sont pas complètement reflétées par les statistiques, mais qui existent, qui sont montrées, mises en évidence par d'autres études, y compris par une étude faite par, notre français spécialiste de la...
Piketty.
Voilà, Piketty a publié dernièrement une enquête statistique sur les inégalités en Russie. Et ça concerne pas seulement les inégalités de salaire, de revenus, c'est aussi les inégalités régionales. C'est complètement différent de vivre à Moscou et de vivre quelque part en Sibérie, dans un petit village. C'est rien à voir. Voilà.
Bon, ben merci beaucoup. C'était passionnant. On peut retrouver sur le site à la fois toutes les indications bibliographiques et puis votre exposé.